Conférence privée par le père Philippe à Saint-Joseph le 29 décembre 1986.
Harmonie entre l'homme, entre l'esprit et la matière. l'homme et la femme. Donc, ce qui est assez normal de retrouver au plan psychologique, on trouve une diversité très grande entre l'homme et la femme au niveau psychologique, alors qu'au niveau de l'amour spirituel, je n'oserais pas dire qu'il y a une diversité entre l'amour spirituel de l'homme et l'amour spirituel de la femme. L'exercice est différent, mais la spécificité est la même spécificité, parce que c'est la même âme spirituelle. Ça, je crois qu'au plan théologique, il faut l'affirmer avec beaucoup de force. Autrement, il y aurait deux espèces différentes. C'est pour ça que c'est toujours très difficile de bien préciser que le point de vue des rapports entre l'homme et la femme sont dans l'ordre de la complémentarité et sont premièrement du côté biologique, deuxièmement du côté psychologique, et que troisièmement on voit même du côté de l'exercice de l'amour d'amitié dans ce qu'il a de plus spirituel une diversité. L'amour d'amitié de Marie et de Joseph dans l'ordre l'exercice sont différents, sont complémentaires. Il y a là quelque chose, je crois, d'important à souligner. Le péché a donc introduit un déséquilibre, donc a augmenté la complémentarité, je crois, puisque le déséquilibre est du côté des rapports de l'esprit et du sensible. Le déséquilibre est du côté du conditionnement et du côté de l'exercice. Ce qui explique que la complémentarité est plus difficile qu'avant. Ça, c'est évident qu'on voit très bien que les conséquences du péché font que, c'est dit explicitement, le désir de la femme se porte vers l'homme et lui va la dominer. À la place de l'aimer, il la domine. Et elle, à la place de l'aimer pour lui, la recherche pour elle. Et c'est là où on voit très bien que du côté de la complémentarité, il y a quelque chose qui est boiteux depuis le péché. Tout est repris dans un nouvel équilibre. Dans un nouvel équilibre avec la grâce chrétienne. Et ce nouvel équilibre nous apparaît à titre d'exemple dans l'amour de Joseph et de Marie. Puisque le Christ, il est au-dessus. Le Christ, il est Dieu. Et donc, il ne veut pas comprendre nouvel équilibre entre l'homme et la femme. Le nouvel équilibre entre l'homme et la femme nous est donné dans le point de vue de Joseph et de Marie. C'est cette très grande amitié, cette plus grande amitié qui a existé entre Joseph et Marie, qui nous montre comment Dieu, par la grâce chrétienne, renouvelle l'équilibre premier du couple. Le couple le plus parfait, c'est Joseph et Marie. Dans la pauvreté, pour qu'il y ait perfection du côté de la philia, de l'amour d'amitié, il faut cette pauvreté. Pauvreté qui n'aurait pas de sens dans la grâce de la justice originelle et qui prend son sens dans la grâce chrétienne. Et c'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Parce qu'il est évident que cette suprême amitié entre Joseph et Marie, par rapport à l'amitié première d'Adam et Ève, est d'un style très différent. Alors, pourquoi cela ? crois que la première raison nous est donnée par le mystère de la maternité divine de Marie. Joseph doit coopérer à sa manière à ce grand mystère de la maternité divine de Marie. Il doit coopérer en acceptant la pauvreté au niveau biologique, en acceptant d'être mis à l'écart, la mise entre parenthèses. La mise entre parenthèses, c'est-à-dire au fond accepter que Marie soit mère du Fils de Dieu d'une manière toute particulière, toute divine et d'une manière miraculeuse. Joseph y coopère. Joseph aurait pu dire, ah si c'est ça, non. Vous voyez, si Joseph avait aimé d'une façon trop jalouse Marie et d'une manière trop humaine Marie, Joseph aurait refusé. Et c'est extraordinaire ce que Dieu demande à Joseph. Dieu demande à Joseph une situation qui est terriblement difficile, puisque de fait, par son silence, il va faire croire que, donc il favorise un mensonge. Vous voyez dans quel sens? Il favorise de fait cette situation qui fait que tout le monde dit Jésus est le fils de Joseph et de Marie. Et ça s'est dit. Et Joseph s'est tu. Donc Dieu demande à Joseph une coopération au niveau social, au niveau politique, dans une mise entre parenthèses, donc dans une pauvreté très radicale, très fondamentale, pour que la maternité divine de Marie soit une maternité miraculeuse. C'est pour cacher le miracle de la maternité divine de Marie. Pourquoi ce miracle? Je vois les pourquoi successifs. Pourquoi ce miracle? Ce miracle, c'est pour que la maternité divine de Marie soit parfaite. La maternité divine de Marie est parfaite parce qu'elle est miraculeuse. Je dis bien ça. Je ne dis pas premièrement parce qu'elle est divine, mais parce qu'elle est miraculeuse. Parce que lorsque Dieu intervient, et là il intervient non pas par nécessité, c'est par surabondance. C'est pour respecter, puisque c'est évident, Joseph était présent. Et pour qu'on voit davantage la surabondance, c'est que Marie était déjà fiancée à Joseph. Donc tout était possible, au point de vue des causes secondes. Un miracle de surabondance. C'est très curieux. Il y a des miracles de nécessité, des miracles de surabondance. Les miracles de nécessité, c'est quand on a affaire à Élisabeth. Elle est stérile, la femme est stérile. Donc il faut que Dieu intervienne. C'est un miracle de nécessité. Et Dieu met du temps à intervenir pour bien montrer que son miracle est un miracle et de nécessité. Tandis qu'avec Marie, Dieu n'a pas mis de temps pour intervenir. Il n'a pas attendu que Marie ait 60 ans. Ça aurait pu se concevoir. Comme Élisabeth. Il n'a pas attendu ça. Il y a une hâte, parce que c'est un miracle de surabondance. Les miracles de surabondance sont comme ça. La multiplication des pains, c'est un miracle de surabondance. Cana, c'est un miracle de surabondance. C'est la hâte de Dieu. Et ça, c'est très important parce que ça fait comprendre quelque chose de différent. Charisme. Les charismes, il y a des charismes de surabondance. C'est pas toujours la nécessité et le besoin. Or, de fait, c'est un charisme de surabondance qui fait comprendre davantage que la maternité divine de Marie est la plus parfaite de toutes les maternités parce qu'elle est justement, parce qu'elle relève voulez, dans sa sagesse, que la maternité divine de Marie soit au sommet de toutes les autres maternités. Et pour cela, il fallait la pauvreté de Joseph. C'est très très grand, ça. Pour entrer dans le plan de Dieu. Quelquefois, Dieu nous met à l'écart. La petite balle du bon Dieu qui est en dessous de l'armoire, remplie de poussière. Dieu nous met à l'écart. Et nous ne comprenons pas. Et nous risquons à ce moment-là de nous replier sur nous et d'être de mauvaise humeur. Dieu nous met à l'écart. On dit, mais quoi ? Pour nous utiliser d'une façon plus divine. Il a mis Joseph à l'écart pour l'utiliser d'une manière plus divine et pour permettre une œuvre plus divine en Marie. Comme Joseph aimait Marie, ce qui se passe en Marie, c'est pour Joseph. Ce qui se passe dans l'ami, c'est pour l'ami. Autrement, on n'est pas véritablement ami. Si entre Joseph et Marie, il y a la plus grande des amitiés, on peut dire que ce que Dieu réalise en Marie, en plénitude, c'est pour Joseph. Et Joseph le comprend comme ça, et c'est bien ce que l'ange lui dit. Donc, Dieu veut que la maternité divine de Marie soit la plus excellente de toutes les maternités. Or, si la femme est la benjamine, est la plus parfaite, l'œuvre que Dieu réalise en elle par la maternité est donc bien ce qu'il y a de plus parfait dans l'humanité. Dans l'ordre biologique, donc dans l'ordre de la vie biologique, dans l'ordre psychologique et, ajoutons, dans l'ordre humain et divin. Je crois que nous pouvons et que nous devons dire ça. C'est la maternité divine de Marie qui met l'humanité dans son sommet, d'où on comprend le Magnificat. Le Magnificat, c'est l'hymne de la maternité divine de Marie. C'est l'hymne de la maternité divine de Marie. Et donc, c'est l'hymne de l'humanité qui atteint son sommet, qui atteint ce qu'il y a de plus grand en elle. Maternité divine qui fait que Marie est au confin du mystère de la très sainte Trinité par sa maternité divine. Et qu'elle touche quelque chose d'unique. Vous voyez ? Et c'est pour ça que le mystère de la maternité divine de Marie, dans notre monde d'aujourd'hui, où on ne comprend plus ce que c'est que la maternité, doit être remis en pleine lumière pour que nous comprenions l'oméga d'humanité. L'oméga d'humanité a existé en Marie, dans son mystère de la maternité. Cette maternité est contemplative. Elle va donc unir le sommet vital de l'humanité. Et elle va unir ce sommet à un sommet spirituel et divin par la contemplation de Marie. Contemplation qui prendra son sommet dans la compassion. Marie est mère à la croix. Et elle doit atteindre la perfection de sa maternité en acceptant de mourir volontairement, librement, dans son cœur de mère. Vous voyez, c'est ça aussi quelque chose de très important parce que ça nous fait comprendre que si Marie, dans sa maternité, qui est sommée parce qu'elle forme le corps le plus parfait, maternité divine qui forme ce qu'il y a de plus parfait dans l'ordre physique, dans l'ordre de notre univers. C'est corrélatif, c'est de Jésus, vous êtes tous d'accord hein, que le corps de Jésus, c'est le sommet de notre monde physique. Tout notre monde physique est finalisé par le corps du Christ. Donc ça, nous pouvons tous comprendre ça dans la foi. Et donc, c'est bien l'oméga. L'oméga théardien. Vous voyez, c'est ce que Théard n'a pas vu. Il n'a pas assez théologien. C'est l'oméga. C'est pour ça que dans le corps du Christ, la matière est divine. La matière divine dans le corps du Christ. C'est là encore ce que Théard n'a pas vu. C'est vrai que notre matière, la matière du monde physique, est présente dans le corps du Christ. Le souci de saint Thomas de rattacher le corps du Christ à Adam, c'est pour bien le montrer qu'il est enraciné dans notre monde physique. Dieu aurait pu créer un corps qui soit tout à fait en dehors de notre univers. Un corps martien d'une autre planète. Il n'a pas voulu ça du tout, mais même pas d'une autre planète, hein. De notre haut, de notre univers. Dieu pourrait le faire, ce n'est pas du tout impossible pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu dans cet ordre-là. Il a voulu au contraire que ce soit dans Marie, dans la petite descendante d'Adam et d'Ève, pour bien nous faire comprendre que le corps du Christ, c'est le sommet. C'est pour ça que la théologie du corps ne peut pas se faire en dehors du corps du Christ. C'est la théologie du corps, c'est le corps du Christ. Et comme ce corps a été formé en Marie, il est donc relatif à la maternité divine de Marie. Il ne peut pas se comprendre en dehors de cette maternité. Parce que la maternité n'est pas seulement cause univoque, elle est cause analogique. C'est le propre de la maternité, parce que entre la mère et le corps, il y a un lien, la matière. Il y a un lien, il y a une continuité vitale. Il y a une continuité vitale entre les deux. C'est pour ça que je ne peux pas séparer le corps du Christ de la maternité divine de Marie. Et que je peux dire qu'au niveau de la créature, la maternité divine de Marie représente le sommet. Vous voyez, c'est l'oméga prime. On va compléter Théard, on mettra un oméga prime. C'est beaucoup plus calé. C'est l'oméga relatif à l'oméga absolu. Parce qu'il y a deux oméga, toujours. Il y a l'oméga sommet immanent et l'oméga sommet transcendant. Marie est la mesure immanente de notre univers. Comprenez ou ne comprenez pas, ça n'a pas d'importance, c'est la vérité. Donc, c'est le sommet de notre univers, elle est la mesure immanente. Et Jésus, dans son corps, est la mesure transcendante. Deux mesures, toujours les deux mesures, immanentes et transcendantes. Et donc, elles sont relatives l'une à l'autre. La maternité divine de Marie est première par rapport à la formation du corps du Christ. Première dans l'ordre génétique. Et le corps du Christ est premier dans l'ordre de nature. C'est lui qui finalise la maternité, qui donne à la maternité de Marie toute sa signification. Et c'est parce que le corps du Christ est l'oméga transcendant de notre univers que la maternité divine de Marie est la mesure immanente de notre univers. C'est du reste très très beau, ça, pour comprendre ce que c'est qu'une mère. Notre univers est finalisé par la maternité. Alors, on comprend la rage du démon, vous savez, il n'est pas bête. La destruction de la matière. fraternité, c'est la destruction de notre univers. Notre univers deviendra anarchique et devient anarchique par la destruction de la maternité. Puisque c'est la maternité qui donne son sens et signification, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Et donc Marie, mesure immanente de toutes les maternités, l'avortement détruit la maternité. C'est une destruction de la maternité par l'immanence. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas seulement le crime du côté de l'enfant, c'est le crime du côté de la maternité. C'est un double crime. Parce que les deux hommes à gomme se tiennent. Et ça, c'est très important, parce qu'on n'insiste pas beaucoup là-dessus. Et c'est pourtant très important, parce que ça brise quelque chose qui est le sommet, la finalité. C'est toujours par cela que de fait, on comprend le point de vue. Alors, pour comprendre ça, il faut justement saisir qu'elle est immaculée. Enfuit sa maternité. Si Marie n'était pas immaculée, la maternité de Marie resterait bien le sommet, mais ce ne serait pas un sommet parfait. Grâce à l'Immaculée Conception, elle est un sommet parfait. Sa maternité est parfaite parce qu'elle est immaculée, parce que autrement, il y aurait dans la maternité de Marie des petites conséquences de l'imperfection, du déséquilibre de l'esprit et de la matière, comme dans toute mère. Tandis que là, au contraire, il y a un équilibre parfait, une harmonie parfaite reprise par le mystère de l'Immaculée Conception, qui est un équilibre chrétien en vue de sa maternité. Vous voyez, on est là au sommet, et c'est ça qui est tellement important pour nous à saisir, parce que ça fait entrer, si vous voulez, le point de vue théologique dans tout ce que c'est que la théologie du corps. Alors, je dis que la maternité divine de Marie, elle se continue de fait par une éducation. Toute maternité implique une éducation. Parce que c'est une maternité humaine, une éducation. Et, allons plus loin, une mission. Et la mission de Marie est liée à celle de Jésus crucifié. C'est pour ça que la maternité divine de Marie s'achève dans le mystère de la compassion. La compassion, c'est une maternité dans son sommet. C'est la mort dans le cœur maternel de Marie au niveau biologique. Son cœur de mère a cessé de battre avec la mort du Christ, biologiquement parlant. Ça, il y a quelque chose qu'il faut essayer de comprendre pour naître à la maternité mystique à l'égard de Jean et à l'égard de l'Église. Alors, qu'est-ce qui se passe là? La relation de la mère et du corps, c'est que le corps du Christ devient victime d'amour. C'est le mystère de l'agneau immolé et qui va jusqu'au bout de l'immolation. La victime sanglante avec le coup de lance. Alors là, nous découvrons quelque chose de tout à fait particulier. C'est que si le corps du Christ est le chef-d'œuvre de notre univers, ce chef-d'œuvre de l'univers est pour l'immolation. Pour être entièrement brûlé par l'amour. Être offert en état d'immolation. Et il fallait le corps pour cela, pour être victime d'amour. Le sang versé, le sang qui est, comme je vous le disais, le passage de l'âme au corps. Il faut que le sang soit versé. passion sanglante permet une souffrance, une douleur qui ne pourrait pas se réaliser autrement. Il est évident que...
Visage du Christ.
Jésus dans le corps glorieux du Christ et qui exprime à ce moment-là la fécondité, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est la fécondité de la fécondité. C'est la double fécondité de Dieu, si j'ose dire. C'est la fécondité plénière et totale. C'est le mystère de l'amour dans ce qu'il a de plus personnel. C'est le fruit de l'amour, l'amour de l'amour. L'amour n'a pas de visage. Et pourtant, l'amour demande une expression. Et alors, c'est l'expression dans le corps du Christ. Mais c'est curieux que dans l'art non figuratif, il y a comme un appel vers cela. Il y a un art figuratif qui est l'art du Fils, du Verbe, et il y a un art non figuratif qui est l'art de l'Esprit Saint. Et c'est vrai, ce qui existe en musique, la musique est beaucoup plus proche de l'Esprit Saint que du Verbe. Ça, je crois, c'est beaucoup plus quelque chose d'intérieur de l'Esprit Saint. Et c'est l'expression en musique, c'est pas le visage. Dès qu'on cherche un visage, on ne voit plus du tout. C'est l'expression. Et la musique doit être expressive dans le rythme profond. C'est l'expression de l'amour. Alors je crois que ça, c'est très intéressant, la figure et l'expression. Il y a une expression de l'amour. Et l'expression de l'amour demande la mort de la figure pour s'exprimer glorieusement. Et dans la gloire, vous voyez, si j'étais hégélien, je dirais que c'est la synthèse de la figure et de la non-figure qui s'exprime dans la gloire. C'est vrai, c'est la synthèse de la vie et de la mort, la gloire. Il faut passer par la mort pour égaler vrai du côté de la vie, pas du côté de l'être. Du côté de la vie, c'est vrai. Il faut ce passage. Mais c'est pas du côté de l'être. Du côté de la vie, il y a quelque chose de juste qui s'exprime de cette manière-là, qui est au-delà du visage, le dépassement du visage, qui est l'expression de l'amour, qui est la présence de l'amour, qui est la communication de l'amour. Parce que l'amour n'est présent qu'en se communiquant. Tandis que la présence du Verbe est une présence, j'allais dire, qui implique cette vie. Voyez comment le corps est lié au Père, est lié au Verbe, est lié à l'Esprit Saint de trois manières différentes. Il est lié au Père parce que par le corps, la vie pourra se communiquer. Il est lié à l'Esprit, au Verbe, parce qu'il donne une figure à Dieu. Et il est lié à l'Esprit Saint parce qu'il donne une expression à l'Esprit Saint. La négation de la figure pour l'au-delà de la figure qui est l'expression et qui va s'exprimer dans la gloire. Et la gloire reprend tout. C'est important de comprendre ces deux maternités. L'une qui finalise notre monde physique. L'autre, qui est l'éclatement de notre monde physique, dans sa mutation totale pour le mystère de l'Église et pour le mystère de la gloire. Tout notre univers connaîtra quelque chose d'analogue à ce que Marie vit à la croix. Dans son cœur de mère, tout notre univers connaîtra quelque chose de semblable au corps du Christ qui accepte d'être victime d'amour. Détruit pour connaître la glorification. Il faut passer par cette mutation radicale, par cette brisure radicale, par cette mort pour entrer dans la gloire. Et dans le corps du Christ, tout notre univers connaît ses prémices. Et dans la maternité divine de Marie, tout notre univers connaît ses prémices. Les deux prémices, la maternité divine de Marie et le corps du Christ. Pour entrer dans le mystère de la gloire, vous voyez comment nous pouvons, au plan théologique, saisir le lien qui existe entre le Ça, c'est la théologie du corps. La théologie du corps, c'est la manifestation de la très sainte Trinité. C'est la manifestation de la très sainte Trinité. Et Dieu se sert du corps pour que le mystère de la fécondité divine soit manifesté. Le mystère de la fécondité divine se manifeste à travers le corps plus d'une manière plus explicite qu'à travers l'esprit. Parce que l'esprit créé n'est pas source de vie. L'esprit créé n'a pas de figure et n'est pas la lumière. Et l'esprit créé n'est pas le souffle d'amour et n'a pas d'expression.
Position.
les stoïciens. Tout est corps. L'esprit, ce n'est qu'un corps particulièrement subtil. Et c'est cette invention des stoïciens, très curieuse, de l'intensité plus ou moins grande, qui explique que l'esprit, c'est simplement un corps subtil. Il n'y a pas de distinction entre l'esprit et le corps, tout est corps. Donc on ramène l'âme au corps. Vous voyez, c'est la position diamétralement opposée à Platon. Et le néoplatonisme, c'est la synthèse des deux. C'est pour ça que c'est le néoplatonisme. Et Aristote n'est pas néoplatonicien. C'est une autre manière de dépasser. Mais dans le néoplatonisme, il y a du stoïcisme. Et puis il y a du Platon, c'est évident. Platon est le grand-père. Mais on assume le stoïcisme. C'est très très connu. C'est pour ça que c'est une mixture assez particulière. Je crois que la position d'Aristote est la seule vraie. Elle demande d'être reprise, d'être repensée, d'être... C'est bien évident. Mais c'est de comprendre que l'âme est distincte du corps. Distinction réelle au niveau des principes. Mais unité substantielle de l'âme et du corps. Et c'est pour ça que l'âme est à la fois le point de vue de la forme et de l'acte. C'est très important. Elle est la forme et l'acte du corps. Donc elle finalise le corps. Le corps n'a pas de finalité en lui-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de finalité humaine dans le point de vue sportif. Parce que si de fait, le corps finalisé, le sport donnerait une finalité humaine. Vous ne pouvez pas trouver de finalité dans le sport. Et quand vous voyez quelqu'un qui finalise toute sa vie pour le sport, vous lui dites, attendons 45 ans. Lorsque l'homme atteint sa maturité, il meurt comme sportif. C'est vrai. Aucun sport qui commence à 45 ans. La sagesse commence à 55 ans. Mais en acceptant justement de mourir au point de vue sportif. Et c'est vrai, il faut mourir au point de vue sportif. Mais il faut en avoir fait un petit peu avant pour mourir. Parce que s'il n'y a pas fait du tout de sport, ça ne va pas. Donc, l'unité substantielle, le corps et l'âme, l'unité substantielle qui fait que le corps est habité par l'âme et que l'âme finalise le corps. Donc il y a les deux aspects. Il faut sortir du corps pour être finalisé. Et l'âme donne au corps une immanence nouvelle. L'âme ennoblit le corps. Et l'âme relativise le corps. Le double mouvement que fait l'âme, ça donne au corps une noblesse unique. Le corps de l'homme n'est pas le corps de l'animal. Il est au-dessus. La noblesse unique. Et le sang de l'homme n'est pas le sang de l'animal supérieur. À un moment donné, on a cru qu'on n'aurait plus besoin de donneurs de sang. On élèverait des animaux supérieurs. On aurait tout simplement. Il y en a vu que c'était impossible. C'est très très beau ça. De voir qu'on ne peut pas faire une transfusion de sang animal pour l'homme. Un des signes les plus étonnants de voir ça. C'est très très mystérieux ça, et c'est très grand. Je trouve ça très très beau. Pour moi, c'est le signe. Vous voyez qu'il y a la noblesse du corps de l'homme est unique. On ne peut pas se ramener à l'infériorité du corps de l'animal. Le corps de l'animal reste toujours une caricature comparativement au corps de l'homme. C'est pour ça qu'on ne peut pas passer d'expérience. noblesse et dépassement, on relativise le corps. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ce lien de l'âme spirituelle et du corps, cette noblesse du corps, n'a pas de finalité en elle-même. Donc, elle est pour autre chose. Elle est pourquoi ? Dans une vision de sagesse, on peut dire premièrement ce que je vous ai dit, source de vie. Dieu, comme Père, peut permettre à l'homme de coopérer d'une manière active à la formation de son chef-d'œuvre. Ce n'est pas du tout que Dieu ait besoin de l'homme, mais parce que Dieu est tellement bon qu'il veut que l'homme coopère à son chef-d'œuvre. L'homme a abîmé ce chef-d'œuvre et Dieu continue l'alliance avec l'homme pour un chef-d'œuvre abîmé. Parce que nous sommes tous nés avec les conséquences du péché originel. Et les conséquences du péché originel font en nous un vieil homme. On est tous nés vieux. Il n'y a que Marie qui est née jeune. On est tous nés vieux. Conséquence du péché originel. Il y a un poids d'hérédité lourd à payer. Et Dieu a maintenu l'alliance malgré le péché. Donc on peut dire que si l'âme est unie au corps, l'âme spirituelle, c'est pour coopérer au chef-d'œuvre de Dieu. L'homme est appelé à cette coopération au chef-d'œuvre de Dieu. Au niveau biologique, complémentarité au niveau biologique. On peut aller plus loin, puisque l'homme est une personne. Vous comprenez très bien que l'aspect biologique ne peut pas finaliser entièrement l'union de l'esprit et de l'âme. Autrement, on pourrait dire que l'union de l'âme et du corps est uniquement au niveau de l'espèce, de la nature, pas de la personne. Et donc, ce serait un poids par rapport à la personne. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est de réaliser un chef-d'œuvre comme personne humaine. Alors, au niveau de l'individu et de la personne, je peux dire qu'il est nécessaire l'union de l'âme spirituelle au corps pour permettre une autonomie plus grande côté de la connaissance. Ce qu'on a très très peu développé, ça. Si vous voyez un auteur qui développe ça, ça m'intéresserait beaucoup. Parce qu'on voit plutôt, et moi j'ai toujours affirmé du reste, on voit plutôt que le corps gêne la connaissance. C'est vrai, c'est un poids. Parce que quand on est fatigué, c'est difficile de penser. Quand on a mal à la tête, c'est difficile de penser. Quand on est très antique, quand on a de la fièvre, une fièvre de cheval, hein, ça veut dire qu'on pense comme un cheval. Alors à ce moment-là, on sait très bien ce que ça veut dire. C'est qu'on ne pense plus. Je souffre trop, j'ai trop mal à la tête, c'est effrayant. Je peux plus. Vous voyez ? Donc là, l'âme, le corps apparaît comme tombeau de la délivrance. Il n'est pas tombeau de l'âme, il est tombeau de l'intelligence. C'est vrai que le conditionnement du corps et la sensibilité à certains moments peut devenir tel que le corps est comme un tombeau. Mais ce n'est pas entièrement juste de s'arrêter là. Il faut comprendre aussi que le corps, la sensibilité, la sensation, l'imagination, peut-être un ennoblissement de l'intelligence, ou plus exactement, peut permettre à l'intelligence un nouveau champ d'action. Ce sera l'art. L'intelligence angélique n'est pas artistique. Tandis que l'art, c'est le lien de l'esprit et de la matière. Est-ce que ce n'est pas dans l'art où on découvre la subjectivité transcendantale de l'intelligence? Grâce au corps, l'intelligence peut connaître un mode artistique. Elle peut inventer le symbole. Elle peut inventer une expression nouvelle. Voyez, cette vieille thèse, hein, que l'art, c'est Prométhée qui fait ce vol aux dieux, c'est un mythe. Et tous les mythes ont quelque chose d'intelligent. Par l'art, il y a une ressemblance particulière de l'homme avec Dieu. Et par l'art, l'homme connaît quelque chose qui le met proche du Créateur. Et donc, il connaît une certaine autonomie dans l'ordre de l'intelligence. Il peut réaliser de nouvelles relations. Des relations au niveau de la couleur, au niveau de du son, au niveau de la parole, au niveau de l'expression. Réaliser de nouvelles expressions, de nouvelles relations. Il est créateur de relations. Ça, c'est extrêmement important. Et comme la connaissance artistique donne une extension nouvelle et une pénétration nouvelle à l'intelligence, je crois que nous pouvons dire qu'il y aura une répercussion au niveau spéculatif de cette autonomie plus grande de l'intelligence qui se développe du côté artistique. Là, c'est très délicat, c'est le passage de la connaissance artistique à la connaissance métaphysique. Les extrêmes se touchent. Le danger de la métaphysique, c'est d'être artistique. C'est tout l'idéalisme, ça. L'idéalisme fait de la connaissance métaphysique une connaissance artistique. Mais je crois qu'il est l'heure, hein. Vous tapez pas, c'est l'heure. Hein. Encore 3 minutes. Bon, on reprendra ça ce soir.